Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue et bon week-end avec Manuel Mariani, critique gastronomique entre autres. Bonjour Manu, comment allez-vous?
Ça va, on fait aller Philippe.
Bien, nous allons parler d'un sujet qui vous passionne aujourd'hui et qui nous passionne.
Bien sûr, la viande Philippe. La viande. Ah, vous avez failli faire de la pub pour Charal là.
Ah non, non, j'ai parlé de viande, on a dit qu'on parlait de viande, pas de Charal.
Oui, attendez,
c'est de la Charal, c'est de la viande.
Leur pub, c'est Charal.
Ah oui, c'est
vous vrai.
Vous
avez jamais entendu ça?
Je ne recommencerai plus alors. Bien, nous allons parler de la viande, un sujet passionnant. On est presque des criminels de guerre aujourd'hui quand on dit qu'on mange de la viande. Avec plusieurs invités sur ce plateau, Manu.
Oui, absolument. Alors, on a avec nous Alexandre de Toulmont, qui a une double casquette, hein, parce qu'il a un établissement qui s'appelle Bidoche. Alors, ça, rien que le nom nous parle un peu. Et c'est une boucherie. Et derrière cette boucherie, un peu comme un speakeasy, Philippe, vous savez, les bars un peu clandestins, là, il y a un restaurant. Et en fait, on choisit sa viande dans la boucherie. On peut l'acheter au poids, ce qui permet de faire des petites mixottes grill avec 100 grammes de ci, 100 grammes de ça, etc. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises,
non,
hein, ça commence pas à 200 grammes,
non.
Donc on peut se faire sa petite sélection de viande et puis on vous la cuit derrière dans le restaurant. Et ben j'y suis allé à l'ouverture. Ça fait combien de temps maintenant?
Là, ça fait quasiment 2 ans.
Ouais, quasiment 2 ans et c'était très très bien parce qu'effectivement on pouvait varier les plaisirs au niveau de la viande. Parce que la viande maintenant, Philippe, on est plus dans le plaisir. Avant, on était dans la surconsommation de viande. Hein. Fallait manger beaucoup de viande, si possible tous les jours. Là aujourd'hui les Français mangent moins de viande, mais ils en mangent mieux. C'est un peu le thème de l'émission d'ailleurs.
Bien, alors avec nous au téléphone, Paul Ariès, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes auteur, journaliste, politologue et vous publiez La lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser aux éditions Larousse, un livre qui s'adresse aux mangeurs de viande, de fromage et aux buveurs de lait. Donc ça, ce sont des très très graves criminels.
Ah ben bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance à diaboliser, voire à criminaliser les amateurs de viande. Mais je crois qu'il faut se souvenir que manger de la viande dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été un acte différent. Et je dirais le fait de manger ensemble, c'est-à-dire ce qu'on appelle la commensalité, ce plaisir que l'on peut avoir à partager, c'est venu justement par la consommation de viande. C'est-à-dire que les préhistoriens ont vieil adage où ils disent que un chasseur ne mange jamais son propre gibier. Et bien, pour moi, l'essentiel, c'est bien cette notion de partage, et quitte à partager, autant partager de bonnes choses, et la viande fait partie de ces bonnes choses.
Alors, le vrai sujet, c'est quand on parle de viande, c'est de savoir encore de quoi on parle. De quoi parle-t-on quand on parle de viande ?
Ben pour moi, il n'y a pas, je dirais, une opposition entre, d'un côté, ce qui serait bien, c'est-à-dire les protéines végétales, et d'un autre côté, ce qui serait mal, les protéines animales. Je dirais que la vraie opposition, c'est entre, d'un côté, la production industrielle de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, et d'un autre côté, moi, ce que je défends, avec beaucoup d'autres, c'est-à-dire une agriculture et un élevage paysan. Et aujourd'hui, je dirais, lorsqu'on dénonce l'élevage, en réalité, ce qu'on dénonce, c'est l'industrialisation de l'élevage. Et au contraire, ce qu'il faut, c'est défendre des petits paysans, une petite agriculture. Parce que le grand danger, c'est cette rencontre, ce mariage qui est en train de se réaliser entre ce qu'on appelle le milieu des végans abolitionnistes, c'est-à-dire qui n'aiment pas à titre individuel la viande, bah tant mieux pour eux, ou tant pis, mais qui souhaitent, eux, interdire à tout le monde d'en élever ou d'en manger. Donc ce qui est dangereux, c'est le mariage entre ce courant végan abolitionniste et puis le lobby financier qui, lui, a choisi d'interdire l'élevage pour développer, parce que c'est une affaire de business, pour développer tout simplement le marché de la fausse viande, du faux fromage, du faux lait, c'est-à-dire de la viande fabriquée à partir de cellules souches. Et le discours des végans, je dirais, c'est un discours complètement faux. C'est-à-dire qu'on accuse les mangeurs de viande d'être responsables de la faim dans le monde, mais c'est complètement absurde. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a un humain sur 8 qui crève de faim, c'est pas parce qu'on a un régime alimentaire trop carné, c'est pas parce qu'un bébé est nourri avec du lait de vache. Ce qui explique ça, c'est un système économique qui a détruit l'agriculture vivrière, qui a généralisé l'appropriation du vivant, qui développe le gaspillage alimentaire. Et puis entre nous, une vache, c'est un petit miracle de la nature. Mmh. C'est qu'une vache, elle sait faire ce qu'un végan ne sait pas faire, c'est-à-dire brouter de l'herbe et puis tout simplement en faire des calories consommables par les humains.
Mais oui, elle pète beaucoup quand même, Paul Ariès.
Elle pète du méthane.
Donc vous voyez que c'est responsable, voyez, Paul Ariès, du réchauffement climatique.
Oui, non, mais les véganes, ils mangent les plantes qui font la bonne photosynthèse aussi. Hein, non,
je taquine.
Chacun a ses torts. Alors, Paul Ariès, parce que vous parliez d'abolitionniste, est-ce que vous parlez de ces mouvements un peu extrémistes là, qui fleurissent, comme celui de Solvay Galloin, la boucherie abolition, la fille, je crois qu'elle s'est fait virer des fémènes parce qu'elle était trop extrémiste, donc quand même, fallait le faire, et qui a fait pas mal parler d'elle il y a quelques temps.
Il y a deux mouvements aujourd'hui qui se disent végans. Mais d'ailleurs, très franchement, le véganisme, c'est pas une façon plus moderne et plus branchée de se dire végétarien.
Ben c'est pas nouveau. C'est ça qu'il faut dire aussi.
Ah mais non. Alors, c'est à la fois pas nouveau, sauf qu'ils vont plus loin. C'est-à-dire que eux, ils considèrent qu'il faut non seulement ne pas manger de viande, ne pas porter de pull en laine, ni de chaussures en cuir, mais ils oublient en fait que l'agriculture tue en moyenne 25 fois plus d'animaux que l'élevage. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes, mais tout bon jardinier sait qu'il ne pourra pas manger de laitue s'il ne s'est pas débarrassé des limaces, et qu'on ne pourra pas manger de pommes de terre sans faire la chasse aux doryphores, et qu'on ne peut pas produire un kilo de blé sans tuer en moyenne une soixantaine de petites souris. Mais vous avez rappelé que, effectivement, nos vaches dans les prés, eh bien, elles émettent du CO2. Sauf que là encore, je dirais accuser l'élevage d'être responsable de la dégradation du climat, c'est ne rien comprendre au problème. C'est-à-dire l'élevage industriel, l'élevage hors sol, oui, il est en partie responsable, mais c'est pas d'ailleurs la cause principale. La cause principale, ce sont les transports. Mais une prairie avec ses vaches, c'est pas une source d'émissions de carbone, c'est un puits de carbone. C'est-à-dire une prairie d'un hectare absorbe 1,5 tonnes de CO2 par an. Et si on suivait la logique des végans, on supprimerait tout l'élevage. Et l'élevage, c'est aussi la défense non seulement des prairies, mais des haies, et finalement de la biodiversité. Et cette biodiversité, eh ben, elle est très bonne pour les humains, mais elle est très bonne aussi pour l'avenir de la planète. Puis vous savez, il y a un troisième gros mensonge que oui. tiennent les végans. C'est lorsqu'ils croient nous assommer une sorte d'argument final en disant qu'on serait responsable, nous, parce qu'on aime manger de la viande, qu'on serait responsable de la crise sur l'eau et du fait qu'un milliard d'humains n'accèdent pas à l'eau potable. Ouais. Alors là encore, c'est tout confondre. Ils avancent toujours les deux mêmes chiffres. Ils nous disent que pour produire un kilo de blé, il faut utiliser 100 litres d'eau. Et ils ajoutent que pour produire un kilo de bœuf, il faut consommer 15 000 litres d'eau. Alors c'est vrai en apparence, mais seulement en apparence. Parce qu'en réalité, ils confondent trois types d'eau. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'eau bleue, c'est-à-dire l'eau réellement consommée par les animaux. Ça, c'est 3% des 15 000 litres. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'eau grise, c'est-à-dire l'eau utilisée pour assainir les installations. C'est encore 3% des 15 000 litres. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'eau verte, c'est-à-dire 94% des 15 000 litres. Ça, c'est l'eau qui reste dans les prairies.
C'est l'eau d'irrigation, c'est ça, oui, l'eau pour arroser.
Et voilà. C'est-à-dire que les mangeurs de viande ne sont absolument pas responsables des drames humains. Mais en revanche, ils doivent apprendre à devenir des mangeurs consciencieux, c'est-à-dire choisir, je dirais, un élevage de qualité, mais comme ils doivent apprendre aussi à bien choisir leurs carottes et leurs céréales.
Bon.
Parce qu'on a un lobby de la viande qui est monstrueux, mais on a aussi un lobby des céréales qui, entre nous, vaut pas mieux.
Mais en Paul Ariès, hein, les végans, quand ils voient arriver, ils partent en courant, parce qu'ils ont à qui parler. Hein. Bon, ce que vous expliquez très bien dans votre livre, c'est attention, parce qu'il y a le discours anti-viande, mais vous expliquez que les industriels se sont déjà organisés pour fabriquer ce que vous appelez la fausse viande. Il y a déjà tout un lexique qui explique cette nouvelle fausse viande. Donc, aujourd'hui, eux, ils sont prêts à passer à l'action, quoi. Une fois que la viande aura disparu, on va manger du steak de céréales.
Mais ils ont déjà y compris le vocabulaire. C'est-à-dire qu'ils vont pas.
Ils ont un lexique, vous expliquez. Ils ont déjà un lexique.
Voilà, ils vont pas nous dire, nous, ce qu'on vous propose, c'est de la viande fabriquée à partir de cellules souches. Parce que, entre nous, le consommateur moyen, il n'en voudra pas, comme il n'a pas voulu de viande clonée. Alors, ils vont parler, ils commencent à parler de viande propre, lorsque c'est cette viande fabriquée artificiellement. Sous-entendu, la vraie viande, ça serait de la viande sale. Et je dirais qu'il faut vraiment suivre ce qui est en train de se passer. Parce que ceux qui cherchent à nous imposer cette fausse viande, fabriqué industriellement à partir de cellules souches, c'est en fait pas n'importe qui. C'est les PDG de Google, de Facebook, de Twitter et autres. C'est-à-dire, en fait, c'est la Silicon Valley. Mmh. Et on a un véritable consortium qui a été réuni en Europe autour du principal financier européen, M. Jeremy Kohler, qui a réuni autour de lui un ensemble d'entreprises qui pèsent, tenez-vous bien, 2,6 billions de dollars, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars, avec un seul mot d'ordre, ouais. Il faut en finir avec l'élevage. Et nous, c'est la raison pour laquelle on a lancé un appel pour créer une journée mondiale de l'élevage fermier et de défense des animaux paysans. Et je dirais que ma grande surprise et mon bonheur, c'est que cet appel a été signé à la fois par des mouvements paysans, comme la Confédération Paysanne, comme le MOTEF, comme Nature et Progrès, comme Violet, et puis du côté des consommateurs, par Slow Food International, par également de très nombreux AMAP, par beaucoup d'écolos, par des...
Alors, expliquez peut-être les AMAP pour les auditeurs qui ne connaissent pas les AMAP.
Les AMAP, ce sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Pour faire simple, c'est-à-dire qu'on considère, nous, qu'il vaut mieux nourrir la planète avec 1,5 milliard de petits paysans plutôt qu'avec 400 000 agro-managers. Et d'ailleurs, si on prend au sérieux le véganisme, il condamne à la mort 1,2 milliard de petits paysans éleveurs dans les pays du Sud. Et je dirais, les végans, non seulement ils sont contre le fait de manger de la viande, mais ils sont contre également le fait d'utiliser les animaux comme animaux de trait. Eh bien, il faut savoir aujourd'hui qu'à l'échelle mondiale, il n'y a que 65 millions de tracteurs. Et heureusement que les petits paysans d'Afrique, que les petits paysans d'Amérique latine et centrale ou d'Asie, non seulement ont de l'élevage, mais ont également des animaux de trait. Et puis, très franchement, on peut pas avoir d'agriculture végétale si on n'a pas en même temps du fumier animal. Mmh. C'est-à-dire que la seule solution pour pouvoir se passer de fumier animal, ça serait toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui bousille aujourd'hui la terre, tout ce qui bousille la planète.
Alors, Paul,
c'est sûrement pas des écolos.
Bien, Paul Ariès, pour en finir, pourquoi est-ce qu'Israël est-elle la terre promise des véganes ? Expliquez-nous ça avec son porte-voix qui s'appelle Gary Guillou, alors Yourofsky, si j'ai bien lu votre livre.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le véganisme se développe à la fois dans la Silicon Valley, hein, aux États-Unis, et se développe également beaucoup en Israël, avec l'idée tout simplement que c'est un marché du futur. Et à tel point que beaucoup de politologues, de sociologues, palestiniens et israéliens se disent aujourd'hui on peut peut-être trouver de la viande soi-disant propre, sans souffrance animale, mais en revanche on ne se pose absolument pas, je dirais, la question de la souffrance du peuple palestinien et autres. Et je cite dans mon ouvrage beaucoup de ces idéologues végans qui nous disent que globalement les Palestiniens auraient tout faux parce qu'ils resteraient, je dirais, définitivement des mangeurs de viande, donc des méchants. Et je crois que c'est vraiment très très important de prendre conscience que c'est pas seulement un phénomène de mode, hein, le véganisme. Entre nous, la mode, c'est ce qui se démode, hein. Autrement dit, ça finit toujours par passer. Non, je crois que c'est un risque véritablement de rupture dans l'histoire de l'humanité. Et je dirais que moi, si je suis anti-végan, c'est d'abord pour défendre l'unité du genre humain. Parce qu'à première vue, le véganisme, c'est très sympathique. Mais le principal philosophe du mouvement végan, c'est un certain Peter Singer, un Australien, qui était d'ailleurs considéré comme le philosophe le plus efficace. Alors, un philosophe efficace, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais le philosophe le plus efficace du XXIe siècle. C'est le père du fameux mouvement d'égalité animale. Mon frère ver de terre, très franchement, en apparence, c'est sympathique. Sauf que le même Peter Singer, il continue en disant qu'un jeune chiot valide est beaucoup plus digne d'intérêt qu'un jeune nourrisson, qu'un grand handicapé ou qu'un vieillard sénile. C'est-à-dire que si on considère que le critère essentiel pour hiérarchiser les individus animaux ou humains, eh ben, ça serait la capacité à souffrir. À ce moment-là, il y aurait des animaux supérieurs aux humains. Et moi, effectivement, c'est quelque chose dont je ne veux pas, c'est quelque chose qui m'effraie absolument.
Paul Ariès, moi, je veux dire, franchement, je vous adore, hein, vous arrivez à couper la parole à Manuel Mariani. Ça, j'ai jamais vu ça. En 30 ans de métier, j'ai jamais vu quelqu'un qui arrivait à lui clouer le bec comme ça. Manu, allez-y, mon petit.
Ben oui, parce que j'avais une question pour Ariès. Oui. Parce que vous, à plusieurs reprises, vous avez fait le distinguo entre le végétarisme et le véganisme. Est-ce que pour vous, le véganisme, c'est une forme radicale de végétarisme qui est devenue presque politique un peu ?
Ah, mais bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trois formes. Il y a tout d'abord le végétarisme, qui est le fait de ne pas manger de la viande. Il y a ensuite le végétalisme, qui est de refuser la viande, mais aussi les sous-produits animaux, le lait, le miel. Et il y a le véganisme. Et vous avez raison, c'est une idéologie politique. C'est effectivement une nouvelle proposition sur les rapports entre les humains et les animaux. Et je dirais que moi, ce qui m'inquiète, parce que finalement, le végétarisme entre nous dans l'histoire, il a été le plus souvent imposé au peuple que choisi par le peuple. Le seul moment où le végétarisme aurait pu m'être sympathique, c'est au moment de la philosophie des Lumières, l'encyclopédie de Diderot, où on disait si on cesse de tuer des animaux, eh ben globalement on va en finir avec la violence et toute forme de violence. Malheureusement, l'histoire nous a prouvé que c'était pas si simple, puisque par exemple tous les dignitaires nazis étaient végétariens. Donc il suffit pas de tuer des animaux pour avoir une sorte de paix universelle.
Et puis Paul Ariès, je me permets de vous interrompre, mais c'est pour la bonne cause, parce que comme on va bientôt faire une pause, on va quand même prendre le temps de rappeler le nom de votre livre et l'éditeur. Philippe, c'est à vous.
Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser, sous-titré Pourquoi les véganes ont tout faux. C'est aux éditions Larousse. Paul Ariès, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
On continue à parler de viande ce matin jusqu'à 13h.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bien, Manuel Mariani, on parle de viande aujourd'hui.
Eh oui, absolument. On a même déjà plutôt pas mal commencé avec Paul Ariès qui nous a expliqué plein de choses intéressantes. Et toujours avec nous, on l'a pas encore beaucoup entendu, mais ça va changer. Alexandre de Toulmont, restaurant boucherie Bidoche, rue Jean-Pierre Timbaud, à Paris 11e, et nous a rejoint entre temps, puisque les gilets jaunes l'ont libéré. Olivier Malnuit.
Bonjour.
Voilà, on va ouvrir le micro d'Olivier, c'est bien. Alors, donc Olivier Malnuit, qui est un serial gourmand, hein, qui est directeur de la rédaction de Grand Seigneur, le magazine du plaisir à table, rédacteur en chef adjoint de Technique Art, et puis de temps en temps chroniqueur radio. Les informer.
C'est tout,
ouais.
C'est tout pour aujourd'hui.
C'est déjà pas mal.
C'est merci.
Ouais. C'est déjà
merci
pas mal.
Et là, on fait de la radio, mais à côté de lui, Manu, vous avez l'air gringalet.
C'est vrai.
C'est pour vous dire.
Oui, je voyais bien que vous étiez
C'est pour ça que je l'ai invité. Bon. Non, alors on l'a invité aussi parce que Olivier Malnuit, donc c'est un bon vivant, j'allais dire grand seigneur, hein, pour reprendre le titre du
je
magazine.
Fais ce que je peux, voilà. À Manuel, hein, vous savez.
Et puis Olivier a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant un mouvement qui s'appelait les filles, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs.
Qui s'appelle toujours les filles à côtelettes.
Les filles à côtelettes, hein, pour contrer un peu le dictat vegan. Hein. Alors parlez-nous des filles à côtelettes, Olivier.
Oh, grand seigneur, le magazine du plaisir à table, c'est un magazine un peu rigolo, qui aime parler de la cuisine et de notre attachement à une bonne vie dans ce pays, autour de clubs, de cercles, dans la grande tradition des cercles gastronomiques. Alors on aime bien solliciter des personnalités de tous les horizons pour les réunir autour d'une passion commune. Et dans ce pays, comme on ne cesse de dire aux gens « mange moins de viande, arrête de manger de la viande, mange moins gras, mange moins sucré », on explique en permanence aux gens comment il faut vivre. Et on fait croire aux gens tout le monde est en train de devenir vegan, ce qui est totalement faux, mais surtout que c'est encore plus terrible, cette injonction est encore plus terrible pour les femmes. Les femmes ne sont censées quasiment plus manger de viande, c'est absolument incroyable.
Voilà, plus de gluten,
et c'est totalement
plus
faux.
Plus rien, quoi.
Et surtout, c'est totalement faux. Il y a énormément de Françaises qui adorent la viande et qui ont même un rapport personnel et, je dirais, collectif entre filles autour de la viande. Il y a beaucoup de dîners de filles.
Même, hein.
Oui. C'est ce qu'elles nous ont dit dans les pages de Grand Seigneur. Elles ont un autre rapport à la viande. Elles sanctuarisent cette consommation, c'est-à-dire qu'elles expliquent que le moment viande est un moment à part. Ça veut dire qu'elles n'en mangent pas tous les matins. Mais quand elles en mangent, et elles en mangent une à deux fois par semaine, c'est une cérémonie, c'est un plaisir.
Voilà, elles font le choix de l'excellence aussi au niveau de la qualité.
Absolument, et c'est même un moment tellement sanctuarisé que certaines d'entre elles nous ont parlé d'un rendez-vous viande avec l'homme de leur vie. Je me souviens de Delphine Depardieu, une comédienne qui est la nièce de Gérard Depardieu, qui me disait « Je ne mange jamais de viande sans mon amoureux, j'attends qu'il revienne, il est en tournée, il revient
de la chasse.
Ce week-end, ce sera notre week-end viande. » Alors vous voyez qu'on est très très loin des discours ambiants sur la viande, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie et sa consommation alimentaire, et les filles à côtelettes, eh bien c'est né d'une envie collective de ces femmes de parler de viande envers et contre tout, c'est-à-dire envers les injonctions de l'époque et surtout une forme de dictature des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui ont osé en parler au risque de se faire tailler, comme on dit, sur les réseaux sociaux.
Alexandre de Toulmont, vous, que ce soit au restaurant ou à la boucherie, est-ce que vous ressentez ça, ce rendez-vous des gens avec une viande d'exception, ou est-ce que vous voyez que les gens continuent à considérer, à consommer de la viande couramment, est-ce qu'il y a une modification du comportement des gens vis-à-vis de la consommation de la viande?
Bon, alors c'est vrai que chez nous c'est un peu particulier, parce que ce que viennent chercher les gens chez nous c'est la viande. Hein. Mais je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit sur les filles et leur rapport à la consommation de la viande. C'est vrai que nous on voit beaucoup au restaurant des groupes de filles qui viennent, et on a travaillé justement avec les filles à côtelettes, on a fait une opération avec elles, ouais.
Oui.
Et on voit que c'est un moment où on a des groupes de filles qui viennent au restaurant en disant c'est notre moment à nous. Alors la consommation est différente de celle des hommes, où on va avoir des pièces de viande qui sont plus importantes, etc. Et c'est exactement ça, c'est plus sanctuarisé chez les femmes. Elles vont prendre un morceau de filet, etc. Elles vont en prendre des moins grosses quantités. Mais elles le font avec beaucoup de révérence vis-à-vis du produit. Et c'est ça qui est très marrant. Et l'autre instant, justement, avec l'amoureux, on a beaucoup de couples qui viennent sur demande de la fille pour faire plaisir aussi, pour se faire plaisir à deux, et ils viennent chez nous au restaurant.
Manger une grosse côte de bœuf à deux.
Voilà, exactement. Ouais. Donc elles en mangent un petit peu moins que leur mari ou leur copain, mais elles en mangent quand même. Et elles le font bien volontiers. Alors sur la consommation de manière générale de viande, effectivement, aujourd'hui, le rapport à la consommation de la viande, il est de toute façon biaisé, puisque les gens qui viennent chez nous, on a toujours l'impression qu'il faut qu'ils se défendent, en fait, de manger de la viande. Comme on les culpabilise tout le temps à la télévision, à la radio, etc., sur cette consommation-là, quand ils viennent, ils justifient. Et c'est là où moi, ça me paraît un petit peu pernicieux, ce rapport qu'on a à la viande, parce que si le but, c'est pas de dire il faut en manger énormément ou arrêter complètement d'en manger, puisque c'est ça aujourd'hui le débat qu'on a avec la viande. Et c'est le discours que nous, bouchers, on a beaucoup avec nos clients, c'est mangez-en moins. Mais regardez d'où elle vient, mangez-en de la meilleure. Pas de la meilleure en termes de goût, de la meilleure en termes de production.
Alors on peut peut-être poser aussi la question à Wadi Jriri de l'atelier de la viande, qui est peut-être avec nous parce qu'il est en plein boulot là, il est dans sa boucherie. Bonjour Wadi, comment ça va?
Bonjour, ça va, bonjour tout le monde.
La boucherie halal bio.
Ouais, boucherie bio halal, hein, rue Claude Decamp dans le 12e. Alors, est-ce que chez vous, Wadi, il y a une grande part de clientèle féminine, ou c'est plutôt les hommes qui viennent acheter la bidoche?
Non, nous, c'est les femmes qui passent commande aux hommes pour venir chercher la viande.
Ah d'accord, oui, parce que c'est lourd à porter, les sacs.
Déjà, et aussi, les femmes, elles planifient lundi leur repas pour jusqu'à dimanche. Donc les hommes viennent, la majorité du temps, ils savent pas toujours ce qu'elles leur demandent, s'ils arrivent pas à lire le papier. Donc ils viennent, ils demandent, donc ma femme m'a demandé ça, ça, ça et ça. Donc moi, chez moi, c'est sûr que c'est plus les femmes qui prennent les directives.
Mais est-ce que Wadi, vous constatez globalement que les gens mangent moins de viande et qu'ils achètent moins qu'avant?
Bah c'est sûr que nous concernant, nous dans notre domaine qui sommes des boucheries avec éthique, les clients, déjà pour qu'ils s'y retrouvent aussi financièrement, l'objectif c'est de manger moins mais mieux. Moi, mes clients, c'est des clients que je vais voir une fois par semaine, deux fois par semaine, ou voire une fois par mois pour ceux qui habitent loin. Parce que l'objectif, c'est vraiment de manger de la viande sans pesticides, sans antibiotiques. Et les personnes en prennent conscience. Moi, je sais que pour ma part, à l'atelier de la viande, les clients font très attention à tout ça. Et on n'est pas du tout sur une politique de débit.
Oui, parce qu'on rappelait que votre boucherie était bio et halal. Mais en réalité, le gros de votre clientèle, ce n'est pas une clientèle communautaire, hein, je crois.
Non, on est une boucherie bio, certifiée Écocert, et de plus une boucherie halal, certifiée AVS. Ça fait que moi, mes clients aujourd'hui, déjà 80% sont des non-musulmans, c'est des gens qui viennent chercher de la viande bio. Après, ceux qui mangent halal, c'est encore mieux. Et ceux qui mangent bio et halal, ben, pour eux, c'est
un... Oui, ils ont le double effet qui se coule, quoi.
Voilà.
Mais la question, c'est aujourd'hui, avec tout ce qui se dit dans les médias, est-ce que les gens vous posent plus de questions justement sur la traçabilité de la viande, sur les antibiotiques?
Ah oui, ça on le voit régulièrement maintenant. C'est les clients, moi quand je vais vendre un steak de bœuf, on va toujours me demander, du moins la majorité du temps, la traçabilité. On veut savoir quelle bête, si on connaît l'éleveur, elle a quel âge. Les gens sont très 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 soucieux de connaître l'histoire des bovins ou des ovins.
On vous demande pas le prénom de la bête quand même, rassurez-nous.
Si. C'est un bout de Robert là que vous mangez.
Pour l'Aïd, pour les agneaux. Ouais.
Ah d'accord.
On va me demander le nom. Non mais plus sérieusement, aujourd'hui c'est sûr que ayant travaillé avant dans d'autres boucheries et aujourd'hui étant à mon compte, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit par rapport à la consommation de viande. Et on invite tout le monde à manger avec éthique. Parce que déjà financièrement ils s'y retrouveront, c'est ce que je leur explique à chaque fois. Au début, on a le premier choc en se disant « Ouais, c'est un peu plus cher. » Mais si on vient une fois par semaine, alors que nous, culturellement, on mangeait de la viande 4 à 5 fois par semaine, et ben de là, on va voir qu'au niveau déjà du goût et au niveau de l'alimentation, on va plus se régaler. Et par la suite, ben on va en manger moins et on va en manger mieux.
Ouais, alors,
Donc c'est tout ça, c'est tout un travail.
Ok, alors vous parliez du fait qu'effectivement les gens mangeaient moins mais mieux. Est-ce que vous pensez, Wadi, que les gens viennent chercher chez vous la réassurance et puis l'échange avec le professionnel qu'ils ne trouvent pas dans les supermarchés? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent leur viande au supermarché alors qu'elle est quand même vachement chère en supermarché, je crois. Hein, si on regarde les prix au kilo, c'est parfois plus cher que chez le boucher.
Ah mais ça c'est sûr, c'est les membres de viande vient me voir pour me dire que les escalopes de poulet qu'on va trouver dans la grande distribution en bio, elles sont plus chères que les miennes, alors que je me sers directement chez l'éleveur. Donc c'est sûr que c'est un vrai paradoxe. Mais c'est quoi la question déjà, Manu? Excusez-moi, j'ai oublié.
Oui, je vous demandais.
T'as bien raison, Wadi. Il faut redemander à Manu qui a posé la question.
Alors, une fois qu'on me demande de parler, en général, c'est le contraire. Alors, je vous demandais si vous pensiez qu'il venait chercher chez vous la réassurance et le contact et le contact, l'information qui n'ont pas en grande surface, quoi.
Ah ben ça c'est sûr, ben vous, déjà je parle pour Philippe et Manu qui connaissent bien la boutique et qui viennent de temps en temps, ben j'ai une boucherie qui est à taille humaine, donc de là on veut tout de suite revenir, les clients la majorité du temps ils aiment bien m'appeler par mon prénom, on va aussi sur un certain tutoiement, mais très modéré et respectueux aussi, ça permet d'avoir un contact humain. Et ça, c'est ce qu'ils ont perdu.
Ceci dit, Wadi, vous êtes un tchatcheur. Hein, vous ne faites pas prier pour raconter les histoires de vos bêtes aux clients. Donc,
C'est ça, un gros boucher.
C'est sûr que j'aime ce que je fais. J'ai de la chance. Déjà, c'est une chance pour moi. Après, plus on va me poser des questions sur la traçabilité, ben, plus je vais aimer. Hein, c'est clair. Hein, c'est pas du tout des questions qui vont me déranger. Mais plus... réellement là, ce qui se passe, c'est que les personnes ont besoin de contact direct avec le boucher, ouais. Et avoir des boucheries pas trop grandes. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'y retrouve, qu'on ait l'impression d'aller chez le boucher, mais dans sa cuisine pour aller chercher son morceau de viande. C'est pas une grande barrière.
Oui, Alexandre de Toulmont, est-ce que vous aussi, chez Bidoche, les gens vous posent beaucoup de questions? Est-ce qu'ils essayent de se tenir informés vraiment de la traçabilité, des origines, etc.? Et quel genre de questions ils vous posent?
C'est les premiers échanges qu'on a avec nous, avec nos clients. C'est d'où vient la viande? Est-ce que vous connaissez l'éleveur? Quelle est la race? Comment la viande est élevée? Moi, ce que je dis à mes bouchers, justement, c'est d'être prêt à passer un petit peu plus de temps avec le client pour lui expliquer, pour faire cette pédagogie-là, parce que c'est important, c'est notre rôle à nous, en fait. Aujourd'hui, le boucher, c'est plus la pièce maîtresse de la viande, en fait. Nous, on n'est qu'un intermédiaire, en fait, entre un éleveur qui fait bien son boulot et un client qui veut se faire plaisir avec de la viande. Donc, nous, on a une obligation de moyens, entre guillemets, hein, vis-à-vis du client, c'est de nous assurer qu'on travaille justement avec ces éleveurs qui bossent bien, avec des élevages extensifs, des bêtes qui sont au pré, comment sont nées. On nous demande comment sont abattues les bêtes, on nous demande. Voilà, tout ça, c'est des réponses qu'on doit avoir, nous, c'est important, et c'est des questions qu'ont les clients spontanément aujourd'hui.
Alors qu'avant, la question qui se posait, c'est est-ce que c'est tendre?
Exactement. Voilà. Est-ce que c'est tendre? Est-ce que c'est maigre?
Si je peux me permettre, c'est là que nos amis véganes n'ont pas tout compris. Il n'y a pas une profession où on est plus préoccupé par le bien-être de la bête et la façon dont on l'abat que chez les bons bouchers de quartier. C'est les véganes, ils savent pas ce que c'est que le bien-être animal, puisqu'ils ce ne sont pas des éleveurs, ce ne sont pas des producteurs, et ce ne sont pas aussi des abatteurs. Alors effectivement, il y a plein d'abattoirs français qui doivent évoluer face à la pression de la société civile. Mais je ne connais pas. J'ai vu des très bons bouchers de quartier évoquer, il y a des bouchers éleveurs, évoquer les larmes aux yeux la vie de leurs bêtes. J'ai jamais vu une profession aussi amoureuse du bien-être animal que les bouchers, et la majorité des Français le savent très bien. Vous savez ce que disent les agents immobiliers dans ce qui fait monter l'intérêt d'un quartier à Paris ou en banlieue? Est-ce qu'il y a un boucher
et un passionné?
Un bon boucher dans le quartier. Si vous avez un bon boucher dans la rue où vous habitez, vous êtes heureux. La majorité des gens qui aujourd'hui vont chez les bons bouchers, c'est pas un commerçant comme les autres. Le boucher, c'est l'ami de la famille. On lui demande conseil. C'est presque un docteur.
D'ailleurs, Alexandre, il y a une question que je me posais, Alexandre de Toulmont, c'est est-ce que pour vous, le fait d'accoler votre boucherie à un restaurant, est-ce que c'était pour que ce soit viable économiquement, parce que justement, les boucheries de centre-ville ne marchent peut-être, il y en a moins, et elles marchent peut-être plus autant, ou est-ce que c'était parce que c'était votre concept de départ?
Il y a plusieurs choses. Hein. Effectivement, je trouve que économiquement, c'est intéressant d'avoir aussi un restaurant accolé à une boucherie. Pour moi en tant que boucher, c'est intéressant pour le client aussi. C'est-à-dire que dans beaucoup de restaurants de viande aujourd'hui, on va avoir du mal à savoir ce qu'on va avoir dans notre assiette. Et la personne qui va pouvoir nous parler de la viande, c'est-à-dire le serveur, est pas forcément la mieux informée, en fait. Alors que le boucher, lui, il connaît. Chez nous, on passe par la boucherie pour accéder au restaurant. Le boucher est là quand le restaurant est ouvert, et du coup ça permet en fait de poser ces questions-là aussi quand on est au restaurant, parce que le sujet qui est important, c'est, comme vous le disiez, on consomme moins de viande en boucherie, on essaye d'en consommer de la meilleure quand on est client. En revanche, la consommation de viande au restaurant, et ça, c'est, moi j'en reste quand même persuadé, à Paris en tout cas, pour ce que je connais, c'est une vraie tendance. Enfin, les restaurants qui ouvrent depuis 2-3 ans, il y a une thématique viande qui est très forte. Alors, il va y avoir des tendances sur du barbecue texan, mais on mange de la viande au restaurant. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. On ne sait plus la cuisiner, on n'a plus envie de s'en occuper, les gens mangent moins chez eux.
Ça fait de la fumée dans la cuisine.
Ça fait de la fumée, ça pue, c'est compliqué, etc.
Boucher Wadi. Ah, l'atelier de la viande, c'est 77 rue Claude Decamp dans le 12e. Le meilleur poulet rôti de Paris aussi, c'est moi qui vous le dis. À bientôt, Boucher Wadi. Et on parle de la viande jusqu'à 13h, ce Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Je ferme ma voix, moi. Oh, pardon.
Voilà, Manu, manger de la viande. Alors, moi, je sais pas s'il faut en manger moins, mais il faut en manger de la bonne, de la viande. Voilà, ça fait partie des grands plaisirs de la vie. Avec des invités sur ce plateau, Manu.
Oui, absolument. Olivier Malnuit, directeur de la rédaction de Grand Seigneur, le magazine du plaisir à table, rédacteur en chef adjoint de Technicart. Ouais. Je déroule le CV à chaque fois. Hein. Ouais. Ça lui fait, je sais que ça lui fait plaisir.
Et là, il est 13h.
Et chroniqueur radio, les informés sur France Info. Voilà. Et puis également avec nous, Alexandre de Toulmont, restaurateur et boucher. La boucherie-restaurant Bidoche, 7 rue Jean-Pierre Timbaud, à Paris 11e. D'ailleurs, Alexandre, si mes souvenirs sont bons, vous, c'est une reconversion, la boucherie, parce que vous n'êtes pas du tout, du tout dans ce domaine-là, à la base.
Ouais, non, exactement. À la base, je faisais de la banque. Hein, je fais pendant 5 ans. Et puis voilà, j'avais très envie de faire un métier autour de la,
ouais, mais
de la gastronomie. Et voilà, j'aimais particulièrement la viande. Je trouvais que ce côté très convivial autour de la bonne viande m'intéressait énormément. Et puis, c'est un métier d'artisan, donc...
Et ce que je veux dire, c'est que Wadi, qu'on a eu au téléphone, était trader.
Mmh. Ouais, ouais, ouais.
Donc voilà, ce qui veut dire que finalement, c'est une deuxième vie, la boucherie. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un métier qu'on n'arrive plus à vendre aux gamins quand ils sont en âge d'aller en apprentissage, quand ils sont étudiants?
Je pense que c'est en train de changer. Mais alors, c'est vrai que pendant très longtemps, on faisait de la boucherie parce qu'on ne pouvait faire rien d'autre. Hein. Les parents mettaient les gamins en apprentissage dans la boucherie parce que...
C'était boucherie ou mécanique. Quoi,
exactement. Ouais. Et aujourd'hui, eh ben, comme on le voit sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, il y a une conviction, en fait. Hein. Et pour bien faire ce métier, il faut qu'il y ait des partis pris qui soient forts par les patrons. Et voilà, c'est tout l'intérêt.
Si
je peux rebondir...
Allez-y.
Non seulement c'est en train de changer, mais il faut dire aux gens que c'est un métier qui a plein d'opportunités en ce moment, parce qu'effectivement, il y a plein de postes à pourvoir. Dans certaines régions, il y a un poste sur deux qui ne trouve pas d'employé. Et donc, c'est un métier où, quand on sort même d'un CAP boucher, on peut évoluer très vite et gagner nettement mieux sa vie que dans bien d'autres métiers. Donc, il y a du buzz sur la boucherie française.
Et c'est un métier d'avenir. Voilà, quand c'est bien fait, le métier de boucher, c'est un métier d'avenir.
Ouais.
Je veux dire, parce que l'avenir de la viande, je suis désolé pour mes amis des grandes surfaces, mais l'avenir de la viande, il est dans la boucherie traditionnelle.
Oui, chez l'artisan boucher.
Et puis la découpe, le geste, on parle même du geste du pianiste sur certains moments de découpe. Mm. Vous avez la classe.
C'est quoi le geste du pianiste?
Ah, le geste du pianiste, c'est... tu veux peut-être mieux l'expliquer que moi, non? C'est vraiment... c'est Desnoyers qui m'a raconté ça. C'est quand tu... Je suis pas un spécialiste, hein. Mais c'est quand tu prends ton élan, un peu comme un pianiste qui va jouer un grand concerto. Bon, il se concentre, et puis après, dans la découpe, il y a une intensité particulière. Bon, je vous fais pas la description précise, hein, je suis pas un spécialiste, mais j'ai adoré l'image.
Bah, il y a le turc.
Les auditeurs ne nous voient pas parce que c'est de la radio, mais on faisait tous le geste, hein, du pianiste.
Non, mais il y a ce fameux boucher turc, là, qui fait son geste.
Oui, absolument.
Là, c'est un peu l'extrême, là.
Voilà, on travaille pas tout à fait comme lui, mais ce qui est vrai,
mais c'est
ce qui est symptomatique, et ce qui fait que ce boucher, il est aussi instagrammable, c'est qu'il y a un geste manuel qui est attirant pour le regard. Quoi.
Voilà, donc, mais il a tout compris.
C'est ce que n'ont pas compris plein de médias. Les bouchers, ils ont la cote, en fait. Les boucheries, elles sont pleines. Vous avez la cote en soirée quand vous êtes boucher, maintenant.
C'est pour ça que je l'ai fait, d'ailleurs.
Bah voilà.
Parce que trader, ça fait plus du tout
c'est
la cote.
C'est pour les filles. Non, ouais, trader, ça marchait pas avec
faire quelque
filles,
chose hein. de mieux pour les
c'est
filles.
C'est un grand métier, ça reste du commerce, mais ça frôle l'art.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet Top Chef, Master Chef qui ont rendu leur lettre de noblesse au métier de la gastronomie?
Ouais, c'est indéniable.
Ouais.
Je pense que c'est arrivé par la cuisine et ça déborde un peu sur tous les métiers de bouche.
Ouais, la pâtisserie,
boulanger, pâtissier, chocolatier, boucher. En plus, il y a quelques années, on a vu beaucoup Hugo Desnoyers et Yves-Marie Le Bourdonnec sur les plateaux télé ou dans les journaux dire que c'était un métier où on avait besoin de main-d'œuvre, etc. Et c'est vrai que c'est un métier hyper manuel. Et à ce titre-là, les gens aiment beaucoup regarder le boucher travailler. Au même titre qu'ils aiment voir un cuisinier monter un plat, etc.
Alors aujourd'hui, il faut être bac plus 20 quand on est client et qu'on va acheter de la viande à la boucherie. Avant, c'était plutôt simple. On demandait un roast beef. Maintenant, il y a de la viande qui vient de partout. Est-ce que ça veut dire que finalement, en termes de viande, il y a des modes aussi?
Oui, ça c'est certain que on entend beaucoup parler aujourd'hui de
le bœuf de Galice, l'Angus,
du Wagyu, de l'Angus, etc. Bon, là-dessus, je peux pas trop moi personnellement en parler. Parce que moi, le parti pris, c'est plutôt de mettre en avant, toujours dans cette même vanne du terroir, etc. C'est les élevages de chez nous, quoi. Donc moi, ce que j'aime, c'est les bêtes de chez nous, élevées dans leur terroir. Et en plus, ça amène une cohérence vis-à-vis du discours qu'on a.
Vous entendez Stoney Chardin, là, Made in Normandie, dans votre casque, Philippe?
Les grands amateurs des viandes étrangères, on est quand même chez les... Vraiment, chez les champions du monde, là. Hein. C'est pas les mêmes prix, c'est pas... Bon, voilà, c'est... Chez nous, il y a des, dans ce pays, il y a déjà de quoi vraiment s'amuser, se faire plaisir.
Ça a l'air, ça parle.
Ben, on a une biodiversité au niveau des races qui, un, est à protéger et deux, est absolument magnifique pour un pays de la taille de la France.
Mais par exemple, aujourd'hui, quelles sont les viandes à la mode? Ce que vous vendez le plus, vous?
Moi, je fais de la limousine et de la bazadaise. Donc, au-delà de la race qui
peut... Alors, la bazadaise...
Ouais, c'est pas très connu comme race. Alors, expliquez justement, parce que c'est une très bonne race qui a failli disparaître, d'ailleurs.
Ouais, c'est une race qui a été longtemps ce qu'on appelle en conservation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, très peu de mères. Bon, là, c'est 2800 mères. Hein,
C'est pas énorme.
Pour vous donner un ordre d'idée, quand on parle de limousine, charolais ou Londe-Aquitaine, à chaque fois, on est à plus d'un million de mères en France. Donc, c'est vraiment une toute petite race. C'est des éleveurs qui font un gros boulot pour maintenir cette race-là. Il n'y en a pas beaucoup. Et la viande est excellente. Alors, ce qu'on me demande beaucoup, moi, un, c'est des bêtes de terroir, hein, d'accord? Des bêtes d'herbe, des bêtes élevées dans leur terroir d'origine, et des bêtes qui sont dehors, et des bêtes qui sont persillées. Alors ça, c'est la grande tendance. Et ça, je pense que c'est exactement ce qui arrive via Bœuf de Galice et Wagyu. On voit des bêtes qui ont beaucoup de gras. Il faut toujours un petit peu se méfier de ça. Il y a plusieurs types de gras, plusieurs types d'élevage. Bon,
ouais,
le boucher,
il y a
du bon gras, il y a du moins bon gras.
Il y a le gras intramusculaire qui est bon, et puis il y a le gras qui est autour, qui est un peu moins bon,
etc. Mais tout ça, c'est des réponses que les bons bouchers sont capables d'apporter. Donc c'est ça qui est intéressant.
Donc attention, est-ce que les gens mangent encore du tartare?
Alors de moins en moins. Hein,
mais... j'ai l'impression que ça disparaît, ça, comme tradition française.
Mais parce que les cuissons des viandes, c'est tellement génial.
Ouais.
C'est tellement passionnant. Ça anime tout de suite la maison. Le tartare, c'est sympa, mais c'est un truc.
Mais c'était très, très français, ça, de manger du tartare.
Ouais. Bon, je pense que c'est un peu galvaudé aussi. On en a vu beaucoup sur des mauvaises tables, etc.
Un bon tartare coupé au couteau, quand même.
Mais du tartare au couteau. Alors nous, on fait trois tartares.
Moi, je le prends le matin.
Tartare de bœuf, tartare d'agneau, tartare de veau. Et ça plaît énormément.
Ah ouais.
Ça plaît énormément. Mais voilà, il faut que ce soit bien fait.
Et le tartare d'agneau, pour que ce soit bon, il faut que l'agneau soit de super bonne qualité.
Ouais,
parce que sinon, ça sent un peu les vestiaires de les vestiaires.
Ouais,
de
et puis on le fait avec qu'un seul morceau. Le tartare d'agneau, c'est que du gigot d'agneau entièrement dénervé et taillé au couteau.
La côte de bœuf a toujours la côte où c'est passé de mode aussi.
Ouais, ça a toujours la côte. Ça, c'est vraiment le morceau. Ouais, exactement.
Et puis, c'est le morceau qu'on ne fait pas à la maison parce qu'on a peur de rater la cuisson. On a peur de.
Mais ça, je trouve que ça bouge un peu. Enfin, il y a quand même. Il y a un tel intérêt dans les boucheries qui m'arrive de fréquenter que je vois des morceaux comme le paleron, par exemple, qui sont.
C'est ma grand-mère, ça.
Oui. Voyez. C'était un peu oublié et je sens un regain d'intérêt pour le paleron.
On se met à manger en grillade, un peu maturé, peu mariné, on se met à le manger en grillade.
Paleron,
alors que c'était un morceau à braiser avant.
Ouais, un morceau à braiser et c'est vrai que chez nous, le paleron, on le vend que à griller. On le vend que à griller parce que sur une viande qui est un peu rassie, quand c'est bien préparé par le boucher, c'est-à-dire qu'il faut glisser les nerfs du paleron, c'est un gros nerf au milieu, c'est un steak qui est absolument génial. Quoi.
Ouais,
en termes de.
Qu'on mettait dans le pot-au-feu avant.
Ouais. Pot-au-feu.
Ah, qu'on met toujours d'ailleurs.
Et qu'on met toujours. Qui fait un très bon pot-au-feu.
C'est pas cher en plus.
Non. Voilà.
Oui, un bœuf mode, un bœuf carotte avec du paleron, c'est magnifique.
Ouais. Mais en fait, ça, c'est ce qui s'est passé un peu avec.
Ouais, je vois Olivier Malnuy opiner.
Non, mais c'est rien. La foire, le merlan.
Dès qu'on parle de viande, moi je trouve que ça fait rêver. Et puisque la société est en permanence sous tension, sous forme d'injonction en fait, de ce qu'elle devrait manger ou pas. Je trouve qu'il y a quand même un truc qu'on ne dit pas. C'est que quand vous avez de la viande à la maison, même au congélateur, et Dieu sait que ça, c'est pas l'idéal, tout va bien. Vous rentrez à la maison, vous n'avez rien préparé, vous êtes fatigué, les enfants ont faim. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas de viande? Vous allez faire des pâtes, et pour rendre les pâtes à peu près appréciables, vous allez les bastonner au fromage râpé, à la sauce tomate, et puis le fiston, il va rajouter du sel, du poivre, et puis un peu de beurre salé, et vous mangerez pas de viande, vous serez heureux. En fait, la façon dont on amène les gens à moins manger de viande, j'ai peur, hein, les dirige vers des modes de vie qui sont beaucoup moins sains. Un ado qui a besoin de manger, moi j'ai un fils de 17 ans, il a tout le temps faim comme les ados qui grandissent. Le soir, si j'ai rien préparé, si je lui fais juste un steak, mais même sans matière grasse, hein, il se prend sa viande.
Alors,
il
le
passe un moment
ou le steak haché.
Non.
Moi, mon fils de 18 ans, lui, c'est steak haché.
Steak,
hein, il les enchaîne.
Une
hein,
viande que je sors du frigo, que je mets sur la poêle, et 10 minutes après, on est à table. J'ai rien préparé d'autre. Il vit un moment extraordinaire avec son steak. Il ne demande pas son reste. Il a très bien mangé. Pas de yaourt, pas de biscuits, rien. Dodo, à l'école demain.
Et oui, ben, je peux de toute façon, vous connaissez un petit peu, votre fils, il n'a pas intérêt à réclamer des bêtes goji chez vous, je pense.
Non, mais il fait ce qu'il veut, c'est un homme libre. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut en manger quand on veut, mieux. Mais si vous avez de la viande à la maison, vous êtes dans la garantie de bien manger, de ne pas manger des merdes.
Manu, on rappelle l'adresse de Bidoche.
Absolument, l'adresse de Bidoche, c'est 7 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e. Vous faites www.bidoche.fr.
Exactement.
Et puis, si vous allez y manger, ne vous étonnez pas, si vous ne voyez qu'une boucherie, parce que le restaurant, il est caché derrière, un peu comme un speakeasy.
Ouais.
Et puis, on rappelle... Grand Seigneur, le prochain numéro qui a un numéro très viandard, hein, je crois.
Pas du tout, des légumes, des fruits et de la viande, bien sûr.
Et de la viande végétarienne, parce que ça va avec.
Et surtout notre grand événement, le Boucher Jump. Nous invitons tous les gens qui aiment leur boucher à sauter de joie chez leur boucher en musique. Vous pouvez regarder ça sur l'Instagram. Touche pas à mon boucher, vous allez voir, c'est très drôle.
Très bien. Et donc, en vente chez tous les bons marchands de journaux, Grand Seigneur.
Et chez tous les bouchers qui nous aiment aussi.
Et chez tous les bouchers éventuellement, peut-être chez Bidoche bientôt.
Parce que c'est pour la presse va mal, vous le savez. Mais si vous faites un steak, un magazine,
c'est la totale,
ça cartonne.
En écoutant un podcast de Beurre FM.
Et achetez Grand Seigneur, voilà.
Merci, voilà. Vous réécoutez donc l'émission podcast www.beurrefm.net. Demain, c'est Steve qui fait son premier book club entre midi et 13h. À demain.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.